soir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 14 octobre 2013 avec Jean-Pierre Michel dans les studios et Robert en duplex. Pour aborder tout d'abord une rubrique internationale autour de différents sujets, Robert, tu avais une idée de thème pour démarrer?
Eh bien, on peut peut-être démarrer par ces amis encombrants de la France qui sont les Qataris et le Qatar, parce qu'aujourd'hui dans l'humanité, une enquête a été réalisée suite à un voyage de journalistes, notamment le journaliste de l'humanité, sur la manière dont se passait les travaux concernant l'installation la préparation de la Coupe du Monde du football en 2022 à Doha, capitale du Qatar. Et alors, on avait des échos, on savait que ça se passait très mal pour les salariés qui sont là-bas, et l'enquête sur 3 pages dans l'Humanité donne des détails, on va dire, hallucinants sur les conditions de travail des gens qui sont soumis à un véritable esclavage. Ce sont la plupart du temps des gens qui viennent d'Inde, des Philippines, de Malaisie, enfin des pays du sud-est asiatique. Et sur on estime qu'actuellement il y a un million de salariés de ces pays-là qui sont au travail à Doha, et plusieurs centaines, on parle même de milliers d'entre eux, sont morts depuis 2-3 ans, morts de mort naturelle beaucoup plus que d'accidents du travail ou d'accidents de la route. Et ce scandale énorme commence à agiter les chancelleries, et les Indiens, qui sont les premiers concernés par cette hécatombe, ont soumis aux responsables du Qatar un certain nombre de questions, et qui sont autant d'exigences et comme un ultimatum pour que les choses changent. Ce qui a fait qu'en Europe, on commence à le savoir, parce qu'il y a eu une délégation syndicale qui s'est rendue sur place. D'ailleurs, entre parenthèses, le journaliste de l'Humanité a été retenu pendant 12 heures parce qu'on estimait qu'il faisait mal son travail de journaliste.
Ça n'a pas été un voyage de tourpeau, hein. Ils ont été pratiquement arrêtés,
oui.
Quoi.
Oui, voilà, détenu pendant plusieurs heures. Alors, le donneur d'ordre, finalement, le Qatar est le réalisateur, mais le donneur d'ordre qui ferme les yeux, eh bien, c'est la Fédération internationale de football, ce grand truc machin qui brasse des milliards de sous. Qui fait la pluie et le beau temps dans un monde super capitalisé qui s'appelle le football professionnel, et c'est lui qui finalement ferme les yeux sur ce qu'est ce chantier d'un nouvel esclavage.
Voilà, on n'a pas fini c'est une affaire à suivre, mais il est évident que c'est très difficile pour les journalistes d'enquêter et de faire leur travail, puisqu'il y a un système policier, le pays est très verrouillé, il n'est pas question de rentrer clandestinement pour s'infiltrer, hein, même en rentrant officiellement, les journalistes ont été interpellés, je crois, parce que tout simplement, ils voulaient discuter avec des travailleurs, quoi. Et on leur demandait de discuter avec les patrons, mais pas avec les travailleurs. Michel ?
Juste à préciser, par exemple, que sur la visite inopinée donc des syndicalistes, hein, c'était sur un chantier quand même qui était tenu par Vinci, par le groupe français. Que les instances qatariennes ne veuillent pas donc faciliter la tâche des enquêteurs, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient syndicalistes, on veut bien le comprendre, mais le silence assourdissant donc de notre diplomatie, hein, quand les quant à cet état de fait. Donc c'est juste cette réalité, hein. C'est qu'il y a tellement d'argent en jeu, et il y a certainement beaucoup de corruption, on peut le dire, hein, comme ça. L'arrivée massive de l'investissement du Qatari en France correspond aussi certainement à de grosses sommes d'argent qui ont dû alimenter plus d'un parti politique. Ceci explique peut-être cela. Donc, sans compter le rôle du Qatar, par exemple, dans l'alimentation en armes pour les insurgés en Syrie, et pas celle soutenue par la SL, hein, mais c'est-à-dire les mouvances les plus extrémistes, celles effectivement qui font qu'aujourd'hui on n'a pas de solution dans ce pays-là. Donc l'hypocrisie de nos chancelleries est telle que on sait très bien où est le mal, hein. Le mal, il a un nom, donc c'est les califats, donc c'est ceux qui sont à la tête du Qatar. C'est eux qui, à coup de millions, SM et ont propagé et favorisé l'islamisme dans le Nord Mali, nous l'oublions pas, en Syrie aussi, et c'est eux qui ont réduit au quasi-esclavage donc les travailleurs du sous-continent indien.
Voilà pour ce sujet Qatar, un petit peu marginal dans l'actualité par rapport aux guerres et aux luttes comme ça, mais par rapport aux droits sociaux des travailleurs, c'est bien un endroit où il faudrait pouvoir agir pour les faire respecter.
Ce qu'il faut ajouter, c'est que ce type de situation va sans doute se reproduire. Ça n'aura peut-être pas la même gravité, parce qu'il y aura des endroits où la résistance sera quand même plus forte à cette tentative de réduction en esclavage. Mais on a l'exemple en France où se prépare le grand chantier ITER à Cadarache, 3000 personnes, et pour l'instant, rien n'est réglé. C'est-à-dire que les travailleurs seront soumis, seront pratiquement dégagés du droit français et soumis au droit des pays d'où ils viennent, et en plus aux conventions des entreprises qui les envoient et des agences intermédiaires. C'est-à-dire que les conditions qui sont celles du Qatar, on va les retrouver à Cadarache pour ITER. Mais on va trouver plein de ces grands chantiers sur la planète, et c'est une avancée encore spectaculaire du capitalisme sauvage et de la réduction du travail à un rapport, un rapport d'esclaves.
Oui, on n'a pas cité de chiffres, mais ça concerne énormément de monde, hein. Il y aurait plus d'un million de salariés étrangers au Qatar actuellement. Et il y aurait eu déjà des centaines de morts sur les fameux chantiers de la Coupe du Monde. Mmh. Donc c'est pas un petit truc anodin, quoi.
Oui, les Indiens signalent que, selon eux, sont les plus nombreux à être sur place. Ils auraient déjà déploré, depuis 3 ans, le début du chantier, ils auraient déjà déploré plus de 1500 morts.
Oui.
C'est énorme.
Énorme. Michel, on voulait parler de la Libye, c'est ça ?
Oui, juste évoquer ces petites péripéties donc de la semaine dernière. On en parle quasiment toutes les semaines de la Libye. Hein,
un enlèvement clandestin.
Un enlèvement au sein même du Serail, quoi. Les proches qui participent donc au si j'ose dire, au gouvernement. On ne sait plus trop qui, d'ailleurs, hein, gouverne. Hein. Le Premier ministre est toujours Ali Zeidan, mais il a été enlevé, la grande surprise, donc, des membres du palais par des gens dont on pensait qu'ils étaient, puisque vous savez, hein, c'est une agglomération, une accumulation donc, de différentes rébellions qui forment aujourd'hui l'armée, si je veux dire, les armées syriennes qui n'ont absolument rien de centralisé. Donc tout ça, c'est à géométrie variable, c'est très très variable, c'est le cas de le dire. Et à un moment, donc, on s'est fait beaucoup de soucis pour le Premier ministre, hein, et rappelons juste que finalement, ce Premier ministre a dit officiellement qu'il n'était pas au courant donc, dans l'enlèvement donc, des Navy Seals américains de cet islamiste hein, qui avait été enlevé la semaine dernière. Et que John Kerry l'avait contredit en disant qu'il avait bien prévenu le Premier ministre. Ce qui a fait tilt chez les frères musulmans qui ont commandité donc, son interrogatoire. C'est assez cocasse quand même. Hein. Donc qu'une partie donc, du gouvernement en place puisse enlever, interroger le Premier ministre et le relâcher quelques heures plus tard, certainement en négociant au préalable hein, avant de le laisser libre. Toujours est-il, ça en dit long donc, sur l'état un peu déliquescent qu'est aujourd'hui la Libye et sur les legs finalement de l'intervention occidentale dans ce pays il y a de plus de 2 ans.
Voilà pour ce sujet, il faut parler aussi quand même, c'est important, des nouveaux noyés de la Méditerranée, puisque en plus des 360 inhumations qui ont eu lieu aujourd'hui en Sicile, hein, le bateau de la semaine dernière, il y a encore eu, cette fois-ci c'est au large de Malte, un bateau, mais des Syriens cette fois, qui a fait naufrage, et là on a 206 rescapés, je n'ai pas le décompte des gens qui se sont noyés. Alors bon, grosse agitation, moulinet de bras à l'Union européenne, on va faire quelque chose pour faire quelque chose, ça ne peut plus durer, mais ça dure et ça se compte en milliers au fil des années. Les gens qui, tentant d'échapper à leur triste sort, se noient dans la Méditerranée à bord d'embarcations pas du tout adaptées au trajet qu'on leur fait faire. Quoi. Alors l'Union européenne, pour le moment, elle s'oppose, les Italiens en particulier, ils proposent de mettre un peu plus de bateaux, un peu plus d'avions, donc un peu plus d'argent, pour détecter ces gens qui sont en mer et éventuellement les récupérer. Mais ils demandent surtout que chacun en prenne sa part et que, une fois les immigrés débarqués, ils soient répartis dans les pays, l'Union européenne par exemple, au prorata des populations. Et si certains pays, semble-t-il, sont à peu près dans le quota pour ça, comme la Suède, je crois, la France, elle, ne l'est pas du tout et personne ne veut prendre en charge. Tout le monde veut bien qu'ils restent en Italie, ce qui n'est d'ailleurs pas leur souhait. Et ils se dépêchent de passer ailleurs dès qu'ils le peuvent. Mais personne ne veut les accueillir comme réfugiés.
Oui, là aussi, juste à rappeler qu'en son temps, on payait quand même le colonel Kadhafi donc, pour les retenir. Hein, et ça a coûté bonbon à l'Union européenne, mais bon, voilà, ça avait son prix. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est ce qu'a fait le président du Conseil italien, Letta, c'est de donner à titre posthume donc la citoyenneté italienne aux décédés de Lampedusa.
Ça, c'est une mesure qui coûte pas trop cher. Autre sujet, Robert,
Mais toujours sur ce sujet, on peut dire que la position française, déjà que notre gouvernement ne supporte pas les Roms, ne supporte pas des 15 000 Roms en France, comment pourrait-elle supporter cette France des socialistes, quelques dizaines de milliers de rescapés de ces guerres que l'on a menées aux confins de la Méditerranée pour, soi-disant, créer des nouveaux droits humanitaires?
Eh bien, un autre sujet, c'est le prix Nobel de la paix. Ah, il est gratiné cette année, le prix Nobel de la paix. Déjà, le prix Nobel en soi, on sait que Nobel a accumulé sa richesse en inventant la dynamite et les explosifs. Donc. Et quand il donne le prix Nobel de la paix à une organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et Dieu sait si la dynamite, c'est une arme chimique, ça devient carrément bidonnant. Quoi. Personne ne connaissait cette organisation. Alors, les plus fins analystes politiques se disent que tout cela n'est pas sans rapport avec les événements qu'on a connus les 2 derniers mois, là, et que c'est sans doute une manière, en mettant sur le devant de la scène cette organisation et en voulant faire croire que c'est grâce à elle que les négociations en Syrie ont abouti, c'est une manière pour les Occidentaux et les Américains de reprendre la main sur un dossier où les Russes leur avaient pas mal piqué la première place, quoi. Alors on peut se demander si c'est pas ça, c'est dire si les intentions sont nobles du côté des Nobel, si c'est pas ça l'objectif de la manœuvre, donc d'attribution de ce prix Nobel à une organisation parfaitement inconnue, mais qui se trouve plongée sous les feux de l'actualité par l'affaire syrienne. Vous avez peut-être une autre analyse ?
Oui, enfin, moi-même j'ai été surpris, je ne connaissais pas donc, cette association, mais bon, en même temps, quand on sait que Kissinger l'a eu, Shimon Peres l'a eu, enfin, Arafat l'a eu, Barack Obama qui continue à signer chaque année, chaque semaine ses décrets pour l'assassinat ciblé par drone, l'a eu. Bon, c'est pas étonnant, effectivement. C'est éminemment politique, hein, le Nobel, qu'on le veuille ou non. On voit ça à travers nos petites lorgnettes occidentales. Hein, ça reste une récompense, mais loin d'être à valeur universelle, à portée universelle.
Voilà. Autre sujet, Robert ? L'Afrique, peut-être ?
Oui, j'entendais qu'il évoquait... On évoquait le prix Nobel pour Arafat. Ça me fait penser que on sait aujourd'hui que ça paraît maintenant quasi sûr. Il a bien été empoisonné au polonium.
Par un autre prix Nobel.
Oui, et que donc ça peut ouvrir une enquête sérieuse dans laquelle le Mossad et d'autres services secrets israéliens seront mis sur la sellette.
Et oui, en plus les prix Nobel de la paix entre eux se trucident. autre sujet, l'Afrique avec le Kenya, non, qui se rebelle un peu contre les diktats occidentaux, là aussi de la Cour pénale internationale, en refusant que Uhuru Kenyatta donc, soit jugé, donc soit déplacé pour être jugé par la Cour pénale internationale. Et ils en ont un peu marre, ces Africains, de voir que cette Cour pénale qui devrait concerner tout le monde, finalement, ne concerne que les Africains, certes souvent délictueux quand ils sont inculpés, mais il y en a beaucoup d'autres en Occident auxquels la Cour pénale internationale ne s'intéresse absolument pas. Donc il y a un petit vent de fronde qui souffle du côté des Africains pour la remettre en cause dans son existence actuelle.
Et notamment les Américains, puisque les États-Unis refusent reconnaître la Cour.
D'entrée, ils refusent toutes.
Ils refusent de reconnaître la Cour, mais ce sont les premiers à mettre en place des cours ad hoc, un type tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, pour s'en servir d'instrument politique avant tout, et pas d'objet de justice ou de réconciliation. Mais oui, c'est ce vent de fronde, finalement, de la part de Kenyatta, mais soutenu par un très 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 grand... nombre donc de présidents africains, c'est aussi révélateur un peu de ce continent qui commence à ne plus être sous l'emprise de ces anciennes puissances tutélaires, qu'elles soient le Royaume-Uni ou la France, et qui commence donc à parler, c'est soubresaut, mais du moins à parler d'une même voix. Et non, effectivement, qu'il n'y a rien à reprocher à Kenyatta, mais si on remet juste en perspective le volet irakien, il y a la moitié, effectivement, de l'administration George W. Bush, George W. Bush compris, qui devrait passer devant une Cour pénale internationale. Donc ils l'ont très bien compris, et ils sont soutenus aussi en cela, non seulement entre eux en tant que président, mais aussi par leur opposition, parce que la plupart, et c'est ça aussi qui est à noter, la plupart Donc des opposants donc, aux différents régimes africains s'accordent aussi pour dire que trop c'est trop et que c'est, finalement cette cour c'est juste une cour mise en place pour juger les petits donc, par les forts.
Voilà. Autre sujet, Robert ?
Mais on peut rester aux États-Unis où la course contre la montre se poursuit. Il faut absolument que Obama réussisse à faire accepter par les républicains et une partie des démocrates la possibilité de faire marcher la planche à billets, c'est-à-dire d'augmenter l'endettement des États-Unis. Il reste 3 jours pour cela, puisque au plan international, il y a une obligation qui est faite aux États-Unis pour honorer ses dettes extérieures qu'il présente ce type de situation. Et en même temps, c'est doublé du fait que les Américains, les États-Unis n'ont toujours pas non plus réglé le cas du budget. Alors, les deux problèmes sont liés tout en étant différents. Ils sont différents, mais c'est beaucoup de difficultés pour Obama qui visiblement multiplie les démarches auprès des responsables républicains pour tenter d'obtenir que les États-Unis puissent s'endetter. Ce qui est surprenant, c'est que les gouvernements républicains, d'ailleurs en contradiction avec leur propre doctrine, n'ont pas arrêté de faire monter la dette américaine. Et Obama qui veut simplement la faire monter un peu pour pouvoir assurer le financement du plan social et sanitaire, eh bien lui se trouve bloqué.
La dette américaine qui est déjà la plus élevée du monde,
plus
que tous les autres, même que les Grecs. Donc, mais ça ne les gêne pas. Ils sont censés faire confiance à tout le monde. Mais ils ont pris des mesures déjà. Ils ont commencé par geler l'aide militaire à l'Égypte. Hein, 1,3 milliard par an. Il paraît qu'ils ont décidé qu'ils ne livraient plus ni d'hélicoptères, ni de missiles, ni de... je ne sais pas si c'est lié à la question de la dette. C'est plutôt lié à des questions de politique intérieure en Égypte.
Certainement, c'est une manière peut-être de faire pression à... sur les militaires en Égypte, mais dans le même temps, ils vont être contraints et forcés à un moment de livrer cette aide-là, et ils le savent très très bien, hein. Sans cette aide-là, à moins que l'Arabie Saoudite prenne le relais, hein, à moins que les Saoudiens prennent le relais des Américains, sans cette aide-là, c'est pas tellement une aide militaire en armes, bien sûr, c'est du matériel, mais c'est aussi ne serait-ce que payer la troupe. Hein. Sans cette aide-là, donc, c'est la fin de l'armée. Hein. Si les troupes régulières ne sont pas payées, croyez-moi, ça vire à la guerre civile très très rapidement en Égypte, hein, déjà qui est pas très loin de l'état de guerre civile.
Autre sujet, Michel ?
Juste évoquer l'Afghanistan, donc avec cette tentative infructueuse ce week-end du secrétaire américain John Kerry de trouver un accord donc bilatéral avec son homologue afghan Hamid Karzai, enfin homologue président afghan, sur un traité bilatéral de maintien des troupes américaines au-delà donc du plan de retrait, hein, des troupes américaines et troupes de l'OTAN qui doivent officiellement partir au 31 décembre 2014, quitter tous le territoire afghan. Les États-Unis voudraient poursuivre l'expérience, pour pas dire l'aventure afghane, en maintenant ses troupes. On parle de 20 à 25 000 hommes. Et pour cela, donc, il leur faut un cadre juridique. Donc, le président afghan, sachant qu'il a été ramené grâce aux baïonnettes américaines, sait très bien que sans les baïonnettes américaines, sa vie tiendrait pas à grand-chose en Afghanistan. Donc, il est pour le maintien des troupes. Mais dans le même cas, Il y a une condition sur laquelle les États-Unis ne veulent pas revenir, c'est l'immunité donc, de leurs troupes au sol. Hein, donc l'immunité qui les a d'ailleurs forcés donc, en 2011 à quitter l'Irak, puisqu'ils n'ont pas trouvé d'accord avec le gouvernement Maliki à l'époque, et ils se sont tous repliés vers le Qatar, vers le Koweït. Ils sont toujours dans la région, mais aujourd'hui, officiellement, il n'y a plus de militaires américains donc, en Irak, à cause donc, de ce refus de donner l'immunité aux soldats américains présents en Irak. C'est pas rien, hein, cette histoire d'immunité. Hein. C'est quand même c'est le cas, effectivement, de ces soldats qui trucident impunément des civils afghans et qui sont jugés aux États-Unis, bien souvent par une cour militaire qui est pour le coup plus que laxiste, parce que la plupart d'entre eux ont finalement à peine fait des peines de prison, si ce n'est le cas de ce soldat qui avait tué 16 civils et qui officiellement est condamné à vie, mais il risque effectivement de sortir un moment ou l'autre. Bref, les États-Unis ne sont pas prêts donc, à laisser donc, leurs ressortissants jugés par une juridiction étrangère. Et donc, dans le même temps, on a besoin, donc, les États-Unis ont à tout prix besoin donc, de ce cadre juridique. Et on les voit mal quitter l'Afghanistan. Donc, tout reposerait aujourd'hui donc, sur la mise en place d'une loya shirga dans les 3 semaines à venir, donc le grand conseil des tribus des chefs afghans qui devrait se décider sur oui ou non donc, la proposition en l'état donc, de maintien des troupes qu'a proposé John Kerry. Tout ça dans un contexte où le Mollah Omar a refait parler de lui donc, ce week-end et menace ouvertement si jamais il y a un maintien des troupes au-delà de 2014, donc de s'attaquer tout azimut donc, à tous ceux qui auraient signé donc, ce maintien-là. Bref, juste pour signaler qu'en Afghanistan, les Américains subissent échec après échec. Là où ils avaient tenté une forme de médiation avec des représentants talibans au Qatar, ça n'a pas été plus loin que ça. Aujourd'hui, ils se retrouvent donc de nouveau confrontés à ce dilemme, donc rester, mais en ayant donc les moyens de leur mission selon leur intérêt, bien entendu, ou alors partir. Et donc là, pour le coup, ça signerait un échec profond. N'oublions pas, hein, donc de novembre 2011 à décembre 2014, tout ça, pour rien, en gros.
Voilà, on va peut-être faire une pause musicale, à moins que tu aies un dernier sujet, Robert, dont tu voulais parler.
Oui, peut-être simplement joindre peut-être notre voix, mais à tous ceux et toutes celles qui souhaitent, qui demandent, qui appellent les Russes à libérer les gens de Greenpeace, qui sont emprisonnés pour un vrai faux piratage et qui, nous dit-on, risque beaucoup. Alors si les Russes savent pas comment s'en sortir, ils ont qu'à les condamner s'ils les veulent, mais qu'ils les expulsent immédiatement.
Voilà un bon conseil. Eh bien, nous allons faire une pause musicale un peu courte. La chanson est longue. Il y a 35 ans et une semaine, le 9 octobre 78, Jacques Brel disparaissait après avoir écrit « J'arrive ».
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleuvent. J'arrive, j'arrive. j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore.
Voilà, je vous renvoie à votre médiathèque personnelle pour la suite de la chanson, parce que les intégrales de Brel, il y en a à profusion. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, les Canu Info du 14 octobre 2013, et nous arrivons à la rubrique nationale avec peut-être ouvrir sur un dossier autour des municipales et de l'agitation politique qu'elles suscitent déjà.
Oui, déjà... On est à 6 mois et c'est déjà un miracle que le sujet n'intervienne qu'à partir de ce milieu du 15 octobre. On craignait que ça démarre dès la rentrée du mois de septembre. Bon, mais là, c'est vraiment le grand démarrage. Alors, si on fait une petite revue d'effectifs, veut dire que pour ce qui concerne le Front de Gauche, tout le monde a compris que ça n'allait pas forcément au mieux, compte tenu que le Parti de Gauche et le Parti communiste n'ont pas la même stratégie en ce qui concerne ces élections municipales. Le Parti communiste souhaite, ici ou là, sans trop le dire, faire des alliances avec le Parti socialiste, ne serait-ce que pour conserver des places fortes dans un certain nombre de villes. Alors que le Parti de Gauche, lui, prône une politique qu'il a annoncée déjà depuis longtemps, d'autonomie. Une autonomie, alors maintenant, bon, il semble que se dessine un accord, que cette autonomie concernerait la centaine de villes de plus de 20 000 habitants. Bon, ça déjà, ce qui veut dire que tout le reste pourrait laisser les accords se faire entre les différents protagonistes, c'est-à-dire, en gros, ça veut dire que voir comment on s'arrange avec certains socialistes qui se montreraient plutôt proches des thèses du Front de Gauche ou même carrément des sections socialistes. Le Parti de Gauche s'était donc réuni cette fin de semaine dernière à Clermont-Ferrand pour réaffirmer donc ce besoin d'autonomie sur la base du programme du Front de Gauche, qui est toujours ce programme qui a servi lors de l'élection présidentielle et qui effectivement fait comprendre que on ne peut pas à la fois désapprouver, combattre au plan national dans les assemblées la politique du gouvernement socialiste et puis faire des accords avec les mêmes socialistes, surtout concernant dans les grandes villes, où on sait que dans les grandes villes, eh bien c'est quelque chose qui est généralement très, par la presse notamment, est rapproché constamment de ce qui se passe au plan national. Donc réaffirmation d'autonomie pour le Parti de Gauche, qui donc avec ses 300 représentants ont voté à l'unanimité quasiment une manière de préparer ces municipales sans faire que le rejet des socialistes soit inscrit au fronton de cette démarche. Donc c'est une petite manière, une petite concession faite aux communistes. Bon, les communistes, eux, on rappelait qu'ils ils sont bien dans la démarche de rupture avec les socialistes au pouvoir sur le thème de, par exemple, la répartition capital-travail, c'est-à-dire que Hollande ne veut pas prendre en compte le coût du capital, mais par contre fait des concessions au MEDEF sur le coût du travail social, donc capital-travail. Et cette politique, le PCF essaye de l'ajuster avec la gauche du PS. Bon, ça existe. Alors l'aile gauche, il y a deux ailes gauches. Il y en a une qui est maintenant complètement noyée par sa pratique au sein du gouvernement. C'est la gauche Un Monde d'avant, c'est celle de Benoît Hamon et de Montebourg. Alors eux, ils sont complètement dévalorisés. Par contre, il y a le groupe Maintenant la gauche, qui, elle, effectivement, maintient une ligne critique forte sur ces bases de la répartition des richesses contre l'actuelle manière dont le PS mène le gouvernement. Et puis, ce qui est intéressant, il y a la troisième composante, le club, ce qu'on appelle un peu familièrement le club des cinq. Alors, les clubs de cinq, c'est les petites formations qui ont publié hier un texte où effectivement tente de faire un pont entre les deux positions, tout en réaffirmant que les bases la base de fond, c'est le front de gauche, qui ça peut être que des listes front de gauche qui sont à développer sur la base du programme du front de gauche, que les grandes villes doivent avoir donc des listes autonomes. Et puis au-delà, semble-t-il, on peut peut-être effectivement concevoir les arrangements au fur et à mesure qu'on descend au plus près des citoyens et donc des électeurs. Et ce texte est donc signé, lancé dans le débat. Ce texte est signé par Clémentine Autain de La Phase, Pierre Guéral des Alternatifs, Pierre-François Gron de Gauche anticapitaliste, Ingrid Hay également gauche anticapitaliste, Laporte de La Phase, Roland Mériot des Alternatifs, Daniel Obono de Convergence et Alternatives, Francis Sittel de la gauche unitaire, Marie-Pierre Toublant de la gauche unitaire et Stéphanie Treillet de Convergence et Alternatives. C'est bien ce que je disais, le groupe des cinq, qui d'ailleurs se prépare à créer une sorte de confédération très large, très souple, qui devrait aboutir le mois prochain. Donc finalement, c'est toujours l'histoire que quand il y a un troisième, ça évite peut-être que que le duel ne conduise pas à une explosion du front de gauche. Et en fait, à la sortie de toutes ces réunions hier et aujourd'hui, les commentaires, c'est de dire finalement, ouf, on est peut-être passé assez proche de l'implosion ou de l'explosion, c'est comme on veut, mais que finalement cette explosion-implosion n'aura pas lieu et qu'il y aura sans doute possibilité d'aller vers un compromis sur ce problème des prochaines élections municipales. Autre intervenant, c'est les Verts qui sont également concernés, enfin certains, c'est un peu au coup par coup, beaucoup de Verts sont aujourd'hui intéressés par la démarche ouverte des différentes composantes du front de gauche et donc prêts peut-être à faire des alliances. Ça ne se passera peut-être pas dans les grandes villes, encore que, mais sans doute faire que, aux côtés de cette gauche du Parti Socialiste, va poser certains problèmes. Est-ce que ça va faire changer Hollande et Hérault de politique? C'est peu probable, mais va faire quand même problème et débat fort au sein du Parti Socialiste.
Allez, parlons encore des socialistes en deux mots.
Voilà ce qu'on peut dire. Et ça, c'est que le premier chapitre, de quelque chose qui va, qui va occuper pas mal des semaines qui viennent, d'autant que chacune des composantes front de gauche bien prépare, fait à la base voter, on va dire des têtes de liste pour constituer ces futurs.
Robert, je t'interromps parce qu'on a quand même pas mal d'autres sujets à traiter. Marseille, donc les élections des primaires socialistes. On attendait Madame Carlotti ou Mennucci. Finalement, c'est Madame Sonia Galli qui sort première. C'est un peu la candidate de Guérini, hein, l'ancien lobbyiste, toujours président du Conseil général, non exclu du PS et qui traîne une série de gamelles. Alors, elle est toujours première, mais elle pourrait ne pas passer quand même au deuxième tour de ces élections primaires, puisque Mennucci devrait bénéficier des reports de voix de Carlotti, ministre. Alors pourquoi a-t-elle été évincée? Est-ce un désaveu du gouvernement? Est-ce qu'elle n'a pas su faire campagne ou qu'elle est moins implantée? Il y a quand même eu 21 000 votants à Marseille, avec des annonces un petit peu de tricherie de la part de Madame Carlotti. Bref, à suivre pour le deuxième tour. Pendant qu'on est dans les élections, il faut dire quelques mots des cantonales partielles de Brignoles. Alors, il y a 2 ans, ça avait été un Front National qui avait été élu, puis il avait été invalidé. 2 ans après, c'est de nouveau un Front National, Lopez, qui est élu contre une candidate UMP qui, si le Front Républicain a un peu fonctionné malgré tout ce qu'on peut dire, puisqu'elle a gagné 3000 voix entre les deux tours, ça n'a pas suffi parce qu'il a obtenu 54% des voix. Bon, 54 contre 46, elle a augmenté son score de 20%, lui il l'a augmenté aussi pas mal, et du coup ben voilà, un conseiller général Front National. Il faut dire que l'UMP, à force de dire que voter FN ou UMP c'est pareil, peut-être que certains électeurs l'ont entendu et se sont tournés vers le FN. La gauche, quant à elle, a beaucoup de mal à y voir clair, et Hérault se demande s'il y est pour quelque chose. À mon avis, il devrait quand même interroger sa politique dans la répulsion qu'il provoque dans une partie de l'électorat français. Les observateurs font remarquer qu'on s'oriente ainsi vers le tripartisme politique en France, avec le Front National qui gagne du terrain entre les deux tours, et ça c'est relativement nouveau. Jusque-là, c'était pas le cas dans les élections auxquelles il participait en étant bien placé. Quelques mots de Peugeot avec on augmente le capital, très bien, pourquoi pas. On va chercher des Chinois, 1,5 milliard, 3 millions de voitures par an, un peu plus que Peugeot n'en fait. Et puis, il semblerait que parce qu'on ne veut pas que Peugeot devienne chinois, l'État veut faire contrepoids. On aurait pu penser qu'il demande à des investisseurs français, ça manque pas de pognon, hein, de le faire. Eh bien non, il paraîtrait que l'État est prêt à mettre 1,5 milliard dans Peugeot pour entrer au capital et donc faire un contrepoids à ce dessaisissement de la famille Peugeot dans le capital de la société. Moscovici met la pédale douce et n'en parle pas trop. Les citoyens que nous sommes sont assez indignés qu'à un moment où on cherche le moindre centime chez les chômeurs, les RSA et chez les retraités, on trouve facile 1,5 milliard à investir dans Peugeot, alors que il y a plein d'entreprises privées qui pourraient le faire, quoi. Voilà, d'autres informations. Robert, tu avais autre chose Ah, il y a le nucléaire aussi. On va dire un mot de ce projet de prolongation. La décision sera prise le 15 novembre de 10 ans des centrales nucléaires françaises. Au départ, elles ont été prévues, tout le monde l'oublie, pour 30 ans. On les a portées à 40 ans. Et maintenant, à 50 ans, c'est comme la retraite. On n'arrête pas de reculer l'âge de la retraite. Donc les écolos sont un peu furieux si cette mesure passe. Mais EDF, avec ses 58 réacteurs, se frotte les mains parce que faire tourner ces vieilles machines, c'est autant de bénéfices à engranger. Je te donne la parole, Robert.
Oui, on va devoir se bourrer les poches de sodium, hein, pour c'est quoi déjà qu'il faut, j'ai une bêtise là, pour combattre les risques.
L'iode.
Ah oui, oui, justement de l'iode. Ah, voilà.
Sodium, c'était super chimique.
Oui, le sodium, c'est le contraire. C'est oui, il y a le dossier D. Mais oui, cette semaine se clôt, hélas. Par la victoire, on va dire sans gloire, du gouvernement, le débat sur la contre-réforme concernant les retraites. Alors, voilà, c'est parti, c'est voté jour après jour. Voilà, on est passé, comme le dit la presse, on est passé d'une retraite avec du 41,5 ans sous la droite à 43 ans avec le PS. On voit le progrès formidable, hein, la durée des cotisations. C'est alors que les socialistes ont manifesté contre ce que Sarkozy avait fait, c'est-à-dire ses 41,5. Bon, voilà, comme quoi les choses, quand on est au pouvoir, ça change. Il y aura quand même une manifestation très symbolique, même s'il y a du monde et du courage chez ceux qui la feront, demain mardi, puisque c'est demain 15 que finalement le vote définitif devrait intervenir. Et cette manifestation sur Paris, essentiellement autour de l'Assemblée nationale, il y aura la CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU. Alors les socialistes mal à l'aise, eh bien, ils sont en train de s'interroger, enfin les députés mal à l'aise, savoir quelle est la meilleure tactique. Vaut-il mieux être 10 à voter contre ou 50 à s'abstenir? On voit le niveau du débat quand on veut tenter de faire entendre sa voix dans ce type de constitution et de gestion de gouvernementale. Mmh. Peut dire peut-être un mot sans en peut-être développer, sauf si toi tu le fais, c'est les emplois agricoles, GAD, enfin c'est de l'agro-industrie, abattage de porcs en Bretagne, où finalement on va assister effectivement à des... c'est entériné pratiquement la suppression de 900 emplois.
Oui, il y a toute une série de sociétés, hein. Ça a commencé avec Boux 1400 et d'autres abattoirs. Oui. Aujourd'hui, il y avait manif à Brest, hein, des agriculteurs bretons, enfin de l'industrie agricole bretonne, contre tous ces... les fabricants de saumon fumé suppriment 400 postes de usines aussi. Enfin, ça tourne au sinistre, quoi.
Ceci s'ajoute aux 900 suppressions d'emplois, 900 emplois secs supprimés chez Alcatel, ça a été annoncé la semaine dernière, et plus 900 qui sont des emplois mobiles, c'est-à-dire que, 900 salariés qui vont devoir se déplacer. Donc on sait que dans ces cas-là, eh bien, une grande partie n'y retrouve pas son compte, et donc ça va se traduire par des chômeurs en plus.
Un mot des étrangers en France. Au Ménilamlot s'ouvrait aujourd'hui le TGI, l'annexe du TGI de Meaux, c'est-à-dire un tribunal délocalisé. Il y a trois bâtiments, il y a le centre de rétention, il y a la caserne de CRS et maintenant il y a l'annexe du tribunal. Tout ça c'est pour pouvoir renvoyer plus vite les étrangers en les ayant sur place pour faire des jugements rapides. Et la première audience a eu lieu aujourd'hui avec une bataille de formalistes. Pendant ce moment-là, à Lyon, sous le pont Kitchener, le squat perdure. Un squat qui attire quand même l'attention suite à différentes polémiques qu'il y a eu la semaine dernière, mais tout le monde se mobilise. Le juge Gérard Gaucher a voulu la semaine dernière, milieu de semaine, venir sur place pour prendre la mesure et commanditer un certain nombre d'expertises médicales et autres avant de prendre sa décision en fin de semaine. Et en catimini, jeudi soir, est venu M. Valls, rien de moins, voir ce qu'il en était de ce squat du pont Kitchener. Voilà, on dira un mot aussi dans l'actualité lyonnaise des fils de Butte, B-U-T-E, qui occupent une butte à côté du grand stade, cher Aulas. Ils ont été expulsés d'un terrain où qu'ils occupaient et s'étant déplacés, une nouvelle procédure d'expulsion est en cours par les propriétaires du nouveau terrain. Et donc c'est une affaire en cours, mais il y a une volonté de protester contre ces 160 hectares et 400 millions d'euros de coûts pour le dieu argent du stade. Voilà, on arrive bientôt au terme du journal. Tu avais encore un sujet, Romain ?
Oui, peut-être simplement signaler que le Conseil d'État a retoqué la salle de shoot. C'était en salle de shoot, c'est là où les gens qui sont tentés ou confrontés, notamment au sida, mais à la prise surtout de drogue, pouvaient éventuellement trouver une solution. Eh bien, le Conseil d'État n'en veut pas. Lui, il veut une loi pour rendre légale cette salle de shoot à Paris. On sait que tout ce qui concerne les drogues, c'est toujours la loi 1970 qui fait autorité. Mais sur ce sujet, je crois que tout à l'heure, peut-être pour ceux qui suivront l'émission Cannabis Circus, ils en apprendront davantage.
Allez, quelques infos culturelles rapidement. Donc le Festival Lumière, c'est du 14 au 20 octobre. Richard III par Françoise Mémon, c'est à l'Astrée. Il reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis il y a une réunion, le droit de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui se tiendra à Villeurbanne ce samedi à 14h. Elle est où la réunion? C'est pas clair sur le papier. Je sais pas. Sans doute à la salle des... Hôtel Mercure, Lyon-Charpennes, bizarre. Et puis le mercredi 23, ça c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, le Cercle des rationalistes de Lyon vous propose une conférence débat sur l'affaire du Mediator à la mairie du 1er à 17h30 avec le docteur Julliard qui est un médecin de la revue Prescrire. Voilà, quand je vous aurais dit que Éric Simonet, qu'on entend en fond sonore, chantera le mercredi 23 octobre au Carré 30, eh ben, vous saurez tout pour ce soir. Et ce Canu Info se termine. Il sera diffusé demain matin à 8h. Vous pourrez également le retrouver sur Internet. Bonsoir.
On joue à chat perché, mais on n'a pas le mode d'emploi. Perché tranquille. Sur la branche qui ploie, tissu fragile par une vie tachée, bling bling blanc, bling bling blanc, on joue à chat perché.